Alors là, chère famille de Kanaki, 9h07 passées de quelques secondes dans le cadre de l'émission Moins un peu de ce jeudi. Nous allons parler d'un souci, on va dire ça comme ça, et ensuite on va en apprendre un peu plus avec notre invité de ce matin. On va parler du problème de la 10 ou du 10. Bonjour madame, vous voulez bien vous présenter à toute la Kanaki?
Bonjour, bonjour à tous, je suis Odile Gollier, je viens de Haute-Savoie en France et j'ai eu l'occasion de découvrir votre beau pays parce que mon mari est venu travailler une semaine avec certaines antennes du gouvernement en tant que formateur et je me suis dit qu'au lieu de laisser ma serviette sur la plage et prendre le soleil, je pouvais me rendre utile puisque je m'occupe de tous les troubles d'apprentissage et j'avais quelques contacts d'amis de chez nous qui m'ont mis en contact avec encore d'autres amis. Mm-hmm. Et j'ai pu ainsi écrire des mails et faire des propositions de conférences gratuites et de consultations gratuites d'associations de parents.
D'accord. Alors, en tous les cas, bien bonjour et bienvenue en Kanaki. C'est un plaisir de vous recevoir dans les studios de Radio Jido. On va aller directement. Donc, déjà... Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la 10?
Alors la 10, en fait, on dit la dyslexie, mm-hmm, et on dit les troubles 10. Parce que la dyslexie n'est jamais toute seule. 10 veut dire dysfonctionnement. Dans dyslexie, on entend lecture. Donc c'est un dysfonctionnement dans la lecture, expliqué de façon simple. Tous les troubles 10 sont des dysfonctionnements dans les apprentissages scolaires et la vie de tous les jours. La dyslexie, c'est la plus connue, certainement la plus connue au départ, puisque c'est tellement flagrant quand on voit qu'un enfant n'arrive pas à apprendre à écrire et à lire. C'est un dysfonctionnement, donc un trouble durable de l'apprentissage de la lecture et surtout de l'apprentissage de la lecture et de tous ses automatismes. C'est-à-dire que l'enfant apprend à lire, mais il n'arrive pas à automatiser la lecture,
d'accord,
qui restera toujours très coûteuse. Mais la dyslexie se diagnostique sans trouble, d'abord chez des enfants intelligents. Si l'enfant n'a pas un certain quotient intellectuel, on ne peut pas dire qu'il est dyslexique. Donc déjà, je dis à tous les parents d'enfants 10 qui sont détectés, dites bien à vos enfants que ce sont des enfants intelligents, sinon on ne pourrait pas dire qu'ils sont 10. Mmh. Et donc sans trouble des enfants intelligents, sans trouble sensoriel, il faut avoir des oreilles qui fonctionnent bien, des yeux qui fonctionnent bien, sans trouble psychologique qui existe avant le diagnostic, ce qui ne veut pas dire que les troubles psychologiques ne s'installent pas, parce que quand on vit des difficultés, on n'est pas bien. Mmh. Et donc chez des enfants normalement scolarisés.
Combien y a-t-il de formes de 10?
Alors les troubles 10 sont regroupés maintenant. Avant on parlait séparément de dyslexie, dysorthographie, je vais les expliquer après, mm-hmm, dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie et trouble déficit de l'attention. Maintenant on les regroupe sous le dénominatif de troubles 10 parce qu'en fait ils sont interdépendants. L'un n'existe pas sans conséquence sur les autres. La dyslexie existe toujours avec la dysorthographie qui est donc une difficulté à s'approprier l'orthographe avec toutes les règles d'orthographe que ça implique. La dyspraxie, praxie c'est le geste, ce sont donc des enfants qui ont énormément de mal dans les gestes quotidiens, dans les gestes à automatiser. Ça peut être tenir une équerre ou une règle à l'école, mais ça peut être aussi s'habiller, ça peut être mettre le couvert à table, verser de l'eau dans un verre, faire du vélo. Donc les gestes praxiques sont difficiles. Il y a la dysgraphie, qui a rapport à la graphie, donc c'est l'écriture. Quand on voit qu'un enfant a toujours autant de mal à écrire après 2 ou 3 années d'apprentissage, ce n'est pas normal du tout, il faut réagir. Il y a aussi la dyscalculie, qui est un problème avec le calcul, les maths, tout ce qui est logico-mathématique, les nombres. Et enfin, le trouble déficit de l'attention, qui est un trouble qui pénalise le plus tous les apprentissages. Donc, trouble déficitaire de l'attention, TDA. L'attention, c'est ma foi la vigilance et la concentration. Et avec ou sans hyperactivité, on peut avoir un enfant qui a des troubles de l'attention, mais qui est très calme. Et ce qui touche le plus les garçons, c'est l'hyperactivité. C'est un enfant qui ne reste pas sur sa chaise et qui est extrêmement distrait. Donc, ils n'arrivent pas à se concentrer pour travailler.
D'accord. Comme, par exemple, un enfant, là, au niveau du pays Kanak, la première langue, c'est la langue maternelle. Donc, on parle généralement, que ce soit dans la Grande Terre ou les îles, on parle le plus souvent la langue maternelle. Donc, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences pour l'enfant qui rentrerait, par exemple, de 0 à 3 ans, il entend parler, on lui parle dans la langue, et derrière, au bout de 3 ans, il faut rentrer à l'école, donc il va rencontrer une nouvelle langue, que peut-être qu'il n'est pas beaucoup parlé à la maison. Est-ce que ça va aussi poser des problèmes par rapport à sa construction à lui dans le cadre de l'établissement ?
Alors, il faut savoir que quand on apprend à parler, on apprend les sons de sa langue. Mais quand on est bébé, tout petit, qu'on babille et qu'on entend sa maman dire des sons, et sa maman répète les sons, le bébé répète, et c'est comme ça qu'on construit son langage, on apprend tous les sons de sa langue, et plus on grandit, plus notre capacité à entendre d'autres sons se ferme. C'est pour ça qu'on dit que les enfants qui sont par exemple bilingues parce que les deux parents parlent deux langues différentes, sont plus aptes quand ils sont petits à acquérir les deux langues des deux parents. Maintenant, la langue kanak est une langue particulière qui a autant de graphies que de sons, c'est-à-dire il y a 48 sons en langue kanak, dans le nagoné, c'est ça que, comment vous l'appelez ?
Le négoné.
Négoné, voilà. Oui. J'ai appris ça ces jours. Et donc, il y a 48 possibilités d'écrire les 48 sons. Ça veut dire que quand on passe à l'écrit, on n'a pas de problème, puisqu'il n'y a qu'une possibilité d'écrire ce que l'on entend. Mmh. Or, la dyslexie est complètement dépendante de la langue maternelle. C'est-à-dire que les Italiens n'ont pas de dyslexique, apparemment, parce que leur langue est transparente. Ils ont à peu près 25 sons et 30 possibilités de les écrire. En français, on a 190 possibilités d'écrire les 40 sons. Et l'anglais, qui est très difficile, a 1120 possibilités d'écrire les 44 sons. Donc quand les Italiens apprennent l'anglais, on découvre des dyslexiques. Ce qui ne veut pas dire que les Italiens n'ont pas d'enfants en difficulté d'apprentissage, puisqu'il y a les autres troubles, dysgraphie, dyspraxie, troubles déficitaires de l'attention. Mais par contre, un petit kanak qui a donc sa langue maternelle orale, le kanak. Quand il arrive à l'école, il apprend le français. Il l'apprend oralement au départ en maternelle. Ça ne devrait pas poser de problème, mais il y a des sons qu'il ne connaît pas dans sa langue kanak. Donc il va falloir qu'il apprenne les sons. Et je suppose que s'il a des difficultés à s'approprier les sons, il faudrait justement mettre en place un programme, c'est de l'orthophonie en fait, pour lui apprendre tous les sons de la langue française. Parce que quand l'enfant aborde l'écrit en classe de CP, il est important qu'il ait tout son langage oral, sinon le langage oral mal acquis entraîne des difficultés dans l'abord de l'écrit au CP. Mmh. Et c'est là qu'on découvre les 10. On ne peut diagnostiquer un 10 qu'après 18 mois d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc en classe de CE1, CE2. Donc on ne peut pas dire qu'un enfant en maternelle qui n'arrive pas à parler est dyslexique. Mais on peut supposer que s'il continue à avoir des difficultés de répéter et mémoriser les sons et les mots de la langue française, par exemple, puisqu'il prend le français en maternelle, aura encore plus de difficultés en CP à s'approprier l'écrit de la langue française.
D'accord. Un parent qui s'aperçoit que son enfant a des soucis à ce niveau-là, vers qui doit-il se retourner ? Vers l'école ? Vers les structures médicales ?
Si le parent parle le français, quand l'enfant kanak arrive à l'école en maternelle, ce qui est important, c'est de bien articuler et de bien lui faire répéter les mots, de lui lire des histoires et de jouer à des jeux de société avec lui pour lui faire découvrir le vocabulaire de la langue française, pour agrandir son stock de mots. Mmh. On appelle ça le stock lexical. Mais si les difficultés perdurent, que les mots sont toujours écorchés, et que l'enfant, au lieu de dire toboggan, il va toujours dire botogan, même si on lui répète 50 fois, là, il y a un souci d'appropriation du son, et il faut se tourner vers les orthophonistes. Mmh. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup à Nouméa, mais par exemple, il n'y en a qu'une à Lifou. Donc il y a une grande disparité et bon là je suis bien incapable de prendre en main les programmes.
Alors Comment ça, pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est maintenant il y a un problème au niveau des îles. Par exemple, vous dites à Lifou, il y a une seule personne qui bosse là-bas en tant que, comment vous avez dit,
orthophoniste.
Est-ce que y a-t-il un travail aussi au niveau des profs ou des instits à faire avec les enfants? Et comment ça peut, comment en tant qu'instit ou professeur, eux aussi peuvent donner
les professeurs
beaucoup de lectures.
Lire des histoires aux enfants, faire le lien avec des images, faire le lien avec des lettres. C'est sûr que l'apprentissage au CP de la lecture met les enfants en échec si c'est une lecture semi-globale. Il faut vraiment leur apprendre la correspondance graphie et son. J'entends O, comment je l'écris? O, A, U, E, A, U, etc. Mais les professeurs ne sont pas habilités à faire de l'orthophonie. C'est vraiment l'orthophoniste qui rééduque le langage oral et écrit des enfants. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser pour qu'il y ait suffisamment d'orthophonistes qui prennent en charge les enfants. Mais on voit sur le territoire de la métropole, il y a parfois un an d'attente pour avoir des orthophonistes. Et ça dépend du numerus clausus aux examens. C'est-à-dire de l'ouverture du nombre de candidats admis aux épreuves. On est admis aux épreuves pas parce qu'on a la moyenne ou une bonne note, mais on est admis aux épreuves parce qu'ils ont décidé sur 2000 candidates, je parle au féminin parce que c'est une profession très féminisée, sur 2000 candidats, il y a par exemple 50 candidats admis aux examens. C'est un peu comme en médecine. Donc là, il y a un réel problème dans les instances bien plus haut que moi, et je ne peux pas agir là-dessus. Moi, je ne peux que constater qu'il manque vraiment crucialement des orthophonistes et d'autres éducateurs. Et c'est l'orthophoniste le pilier de la rééducation de la dyslexie. Il faut vraiment l'entendre.
Est-ce qu'il faut-il le prendre au sérieux, là, tous ces problèmes-là?
Et alors, il faut vraiment le prendre au sérieux, parce que 80% des illettrés adultes seraient des dyslexiques non pris en charge. C'est-à-dire que tant qu'on continue à ne pas s'occuper de ce retard d'apprentissage lecture-écriture chez les enfants en classe primaire, on fabrique des illettrés adultes. Un illettré adulte, par définition, c'est un adulte qui a appris à lire, mais qui a désappris faute de construction solide de son langage écrit et oral. Et donc, ça devient une inégalité sociale. Et là, on rentre dans le champ du handicap cognitif. Parce qu'on est en situation de handicap de par sa situation personnelle, c'est-à-dire sa difficulté à apprendre les sons de la langue, la langue écrite et orale, mais de par l'environnement social, culturel, économique et familial. Et là, il y a des choses à faire.
Par exemple, un exemple, ça, de soucis, par exemple, de personnes qui écrivent phonétiquement.
Oui, c'est le cas des dyslexiques.
Ça rentre complètement...
Phonologiquement, plus exactement. C'est-à-dire qu'ils vont écrire bateau, B-A-T-O, au lieu de B-A-T-E-A-U. Eux vont avoir du mal à se relire, parce que quand ils écrivent phonologiquement, c'est jamais la même chose. La prochaine fois, l'enfant va pouvoir écrire bateau, peut-être B-A-T-A-U. Ils n'écrivent pas, ils n'ont pas mémorisé le mot, donc chaque fois, ils essayent de trouver une correspondance graphique quand ils écrivent. Et alors les personnes, par exemple les enseignants qui lisent ces enfants-là, l'écriture de ces enfants-là, c'est très compliqué. C'est pas productif.
Les enfants qui ont des grosses difficultés en dictée font partie de ce cas?
Bien sûr, c'est des dyslexiques dysorthographiques.
Par exemple, un exemple, quelqu'un qui parle super bien, alors, mais qui maîtrise parfaitement la langue française, et qui a des grosses lacunes en écriture, c'est...
Alors il se peut, parce que la dyslexie est toujours accompagnée de la dysorthographie, mais la dysorthographie, paradoxalement, elle peut exister toute seule. Donc quelqu'un qui n'a aucun problème d'apprentissage, qui parle très bien, qui raisonne très bien, qui mémorise très bien, mais qui écrit avec énormément de fautes d'orthographe, il n'est que, tant mieux pour lui d'ailleurs, dysorthographique. Il n'a pas acquis l'orthographe de sa langue maternelle.
Donc il y a un gros travail, c'est-à-dire que là il faudra qu'il...
L'orthophoniste.
On revient à l'orthophoniste.
Et puis les méthodes d'apprentissage des enseignants, ça c'est clair. Il y a... on perd un peu l'usage. On est toujours en train de faire des réformes sur la grammaire et l'orthographe. Mais moi, de mon point de vue, on complique de plus en plus les choses. Quand je vois les méthodes orthophoniques qui sont employées, par exemple, les marqueurs couleurs, bon, j'en parle sur mon site internet, les marqueurs couleurs qui attribuent aux familles de mots une certaine couleur, et ce qui fait qu'on a tout de suite la nature du mot, ça donne du sens à la phrase, et ça permet à l'enfant d'alléger sa tâche cognitive. Il y a plein d'outils qui peuvent être mis en place à l'école primaire, pour que l'orthographe soit mieux acquise. Je vois les homophones avec des marqueurs couleurs. On peut tout à fait traiter l'apprentissage de l'homophone sans apprendre une règle par cœur qu'on connaîtra toujours par cœur mais qu'on ne saura jamais appliquer. Comme par exemple les homophones A et A accent. Alors on n'arrête pas de dire A, c'est le verbe avoir. Mais l'enfant n'arrive pas à le placer dans la phrase. Alors que si on met le verbe en couleur, c'est un verbe conjugué, la couleur attitrée est verte, il va retenir A sans accent, vert, et le A avec accent n'est pas vert. Et c'est ça qui va l'aider. C'est pas la règle d'orthographe qu'il aura appris par cœur.
Par exemple, vous avez été à l'IFU hier, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place au niveau des écoles? Vous avez été dans une école particulière ou vous avez été pour rencontrer des gens?
J'ai été au collège...
Naisianou, Avila?
Avila.
Donc, quelle est votre impression quand
Mon impression, c'est qu'il reste énormément de choses à faire. J'ai eu la chance de rencontrer la seule orthophoniste parce qu'elle est venue à ma petite séance d'information. Malheureusement, bon, l'information est passée tardivement. Et puis, les gens, je pense qu'ils avaient un emploi du temps déjà fixé. On était, 12 ou 13. Mais toutes les personnes qui étaient là ont énormément apprécié l'information que j'ai passée. Et surtout, il y a vraiment une volonté de vouloir changer les choses. Maintenant, ça ne dépend pas que de la bonne volonté, vous le savez bien.
Tout à fait, oui.
Donc, les choses sont compliquées. Mais il y aurait déjà vraiment une chose à mettre en place, c'est des journées de formation pour les enseignants et pour les parents.
Pour revenir aux enseignants, quels sont les conseils que vous pourrez donner, par exemple, aux enseignants, aux parents et aux institutions sur le sujet de la dys?
Alors, sur le sujet de la dyslexie, il y a vraiment une chose à faire pour les parents, s'ils le peuvent, selon leurs moyens intellectuels et familiaux et personnels, c'est de lire et écrire, si possible à l'ordinateur, à la place de l'enfant quand il fait ses devoirs. Parce que la lecture et l'écriture n'étant pas automatisées, l'enfant met toute son énergie à lire et à écrire. Or, dans les apprentissages, dans les devoirs scolaires, on ne demande pas à l'enfant de savoir lire et écrire. On demande à l'enfant de répondre à un problème de maths, de faire une règle de grammaire, de comprendre un texte de français, et que, en fait, la lecture et l'écriture sont implicitement des fonctions qui sont automatisées. Et c'est tellement coûteux pour l'enfant que quand il lit, il ne fait pas autre chose. Donc il ne peut pas répondre aux questions du texte de français, puisqu'il a lu, ça l'a épuisé, il n'a rien compris, et il s'est évertué à lire comme il faut. Donc il faut absolument que le parent lise et écrive à la place de son enfant. À l'adresse des enseignants, il y a énormément de choses à faire. Dans les formations, je commence d'abord par leur dire, parce qu'ils se présentent tous, je leur dis d'articuler. Parce qu'un enfant en situation de dyslexie a une mémoire auditive qui est très courte. Donc, il a besoin d'avoir du temps pour mémoriser le mot, entendre le mot suivant et comprendre le sens de toute la phrase. Si on parle trop vite, il loupe des mots. Et donc, il ne comprend pas toute la phrase. Or, en français, on a des consonnes qui sonnent. Il faut bien les prononcer. Il faut essayer de regarder l'enfant, je sais que ce n'est pas culturel chez vous, mais il faut essayer de le regarder parce qu'il peut lire sur les lèvres. Il faut lui expliquer que par le visage, on fait passer beaucoup de choses. Et donc, articuler et parler lentement est déjà un énorme progrès dans l'enseignement.
D'accord.
Et écrire bien au tableau et écrire bien sur les feuilles. On exige des enfants d'écrire bien. Mais là, je ne vais pas être très sympa à l'instar des enseignants. Je rencontre très peu d'enseignants qui ont une écriture parfaite.
Comment vous êtes arrivé depuis peu sur le territoire? Vous êtes en ce moment avec l'équipe de l'UGPE.
Oui.
Un petit mot sur l'équipe de l'UGPE, comment les connexions se sont faites
Alors les connexions se sont faites par des amis interposés, des liens, ça c'est vraiment le tam-tam, hein, le tam-tam africain ou le tam-tam je ne sais pas nommer un, qui fait qu'il y a une répercussion de l'information qui est absolument formidable. Internet nous a aidés avec les mails bien sûr, et j'ai trouvé une équipe extrêmement performante dans sa volonté d'aider les enfants. C'est une équipe qui est soudée, qui est très très humaine, où chacun apporte vraiment son cœur. Mmh. Ils m'ont fait un programme d'enfer, mais je suis absolument ravie parce que j'ai vraiment envie de les aider.
Ah, vous êtes attendue dans le Nord ?
Oui, à Koné, normalement demain.
D'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc maintenant, c'est pour les amener à venir, vous venez de le dire, le comportement des enseignants, les parents qui doivent aussi... Parce qu'il faut savoir que, bien souvent, nous, on nous a fait comprendre que c'était pas, les parents n'avaient pas le droit d'écrire ou de nous donner la main. En fait, nous, le sont nos devoirs avec eux, mais que, voilà. Puis aujourd'hui, vous tenez un discours complètement inverse. Vous dites aux parents de prendre le temps. Et puis quand on entend bien ce que vous dites, je pense que c'est très vrai, parce qu'on prend souvent le temps de lire, et puis souvent on lit quelque chose qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut...
Il y a des moyens qui sont simples pour les parents, mais qui sont intellectuellement aptes à lire et écrire, bien sûr. C'est de lire et écrire à la place de leurs enfants. Il faut que ça passe dans les mentalités avec les enseignants, de donner les cours copiés et d'accepter que ce soit l'écriture du parent ou la feuille d'ordinateur imprimée. Il faut aussi que les parents, toujours dans la mesure de leurs moyens, puissent aider l'enfant à agrandir son stock lexical, c'est-à-dire son stock de mots, enrichir sa langue, tout simplement en lisant des histoires à l'enfant tous les jours, un quart d'heure de lecture, pour que l'enfant garde le plaisir de lire et non pas se renferme et garde le mauvais souvenir de la lecture et des livres. Et puis, d'abord, ça permet aux parents de passer un moment avec l'enfant, ce qui est très important, parce qu'il faut que le parent fasse alliance. Il faut que les parents, l'élève et l'enseignant fassent alliance. Ça s'appelle un partenariat. On ne peut pas se sortir de ce problème si on ne prend pas d'abord conscience que c'est une histoire de partenariat entre les parents, l'enfant, les enseignants et les professionnels de rééducation. Il faut que tout le monde s'y mette. Ça doit vraiment être une chaîne. Et puis le parent a encore un grand rôle à jouer, c'est de prendre le temps au moins de consulter le médecin généraliste qui va donner une ordonnance pour aller voir une orthophoniste, qu'il accepte de s'engager dans toute cette série de séances de rééducation. Chez vous, c'est un peu particulier, on est en train de mettre en place plutôt le système qui consiste à faire venir les rééducateurs à l'école et non pas les parents qui aillent chez le rééducateur en libéral. Ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça évite les déplacements des parents. Mmh. Et puis de l'autre côté, les enseignants, c'est bien tout le rôle que j'ai dans les formations d'enseignants, c'est de leur faire prendre conscience des problèmes. Je leur fais mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je les mets en situation d'échec, de lecture, d'écriture, de copie, de mémoire et puis de gestes praxiques. Et quand ils sortent de la journée de formation, ils sont épuisés, mais ils me témoignent que là, ils ont bien compris les difficultés des enfants. Et pour le coup, ils se mettent en bonne situation d'accepter tous les outils qu'on propose pour aider ces enfants. Il y a des outils simples, mais il faut que ça passe dans les mentalités. C'est que l'enfant n'est pas obligé d'écrire. Il faut lui donner le cours déjà copié. Et il ne faut pas avoir peur, il va suivre le cours. Parce qu'au lieu d'essayer d'écrire et d'avoir énormément de mal, il va se mettre en disposition d'écouter. Et puis, il peut surligner avec un stabilo bosse jaune, par exemple. Mmh. Il peut, avec un crayon papier, mettre des mots clés dans la marge. Mais il sera beaucoup plus attentif au cours que d'être obligé de gratter et de recopier. La copie est très difficile parce que c'est une copie qui part du tableau, et donc c'est un plan vertical, et il faut copier sur un plan horizontal. Or, ces enfants ont énormément de mal à se repérer dans l'espace. Il y a énormément de choses à faire. Je pense aussi aux parents. Il faut remettre au goût du jour les jeux de société avec les enfants. Les livres Charlie, qui consistent à chercher un petit bonhomme dans un fouillis d'images, ça représente une excellente séance d'orthopsie, c'est-à-dire la rééducation du regard, des yeux. Le jeu de mémoire où on cherche, on soulève une carte et on cherche l'autre, c'est pareil, ça fait énormément travailler les neurones. Et puis il y a tous les gestes praxiques, jouer à la marelle, jouer à la corde à sauter, jouer aux billes, jouer aux osselets. Tout ça, les enfants ne le font plus. Ils ont les téléphones, les tablettes, les ordinateurs.
Voilà.
Et c'est nous qui fabriquons les enfants en difficulté d'apprentissage. Bien sûr qu'il y a la dyslexie, mais il y a maintenant des dyspraxies qui sont accentuées par la, comment dirais-je, le non-entraînement à la maison. Faire une tarte aux pommes avec sa maman, c'est hyper intéressant, parce qu'on aligne les pommes et on les met dans l'ordre. Donc on apprend avant, après. Et ça, ça sert pour la grammaire. Il y a plein de gestes dans le quotidien qui sont participatifs d'une bonne rééducation.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais qui malheureusement, qu'on devrait continuer à pratiquer, parce que ça met nos enfants en situation...
Faire des gommettes, du coloriage, enfiler des perles. Tous ces jeux-là, ça se perd. On est dans le numérique.
Pendant longtemps, en Kanaki, on a parlé d'échec scolaire. Pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, vous venez me dire, vous mettez vos enseignants en situation d'échec pour pouvoir justement qu'ils apprennent et puis qu'ils en sortent plus grands ou grandis. Y a un instituteur qui disait comme ça, un instituteur de l'île de Néoné qui disait, qui reprochait justement aux enseignants le fait de cet échec scolaire. Il disait, échec scolaire si l'enfant il est muet, sourd, aveugle.
Là, l'échec scolaire, en fait... Alors, quand je dis je mets les enseignants en échec, je ne parle pas d'échec scolaire, je parle d'échec.
Oui.
Maintenant, l'échec scolaire est une accumulation de difficultés scolaires. Mm-hmm. C'est-à-dire, avant d'arriver à l'échec scolaire, on est en difficulté. Tout enfant qui apprend à lire arrive donc avec son bagage de langage oral. Il a obligatoirement, dans sa première année d'apprentissage de lecture, des difficultés scolaires. Mais c'est l'accumulation qui fait qu'on est en échec. Donc il y a plein de choses à faire en maternelle et dans la première année d'apprentissage de la lecture pour que les difficultés ne s'accumulent pas. Maintenant, la dyslexie, elle est quand même à 70% d'antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'elle a un côté héréditaire important, parce que c'est une formation des connexions neuronales qui n'est pas comme les normaux apprenants. Je ne parle pas d'apprenants normaux, attention. Je dis normaux apprenants. C'est-à-dire qu'ils restent dans une norme de personnes qui apprennent à lire et à écrire en un an. Et donc, la dyslexie est fonction de la langue. Ça veut dire qu'un enfant italien aura plus de facilité à apprendre qu'un enfant français ou anglais. Mais on a des outils, entre autres l'apprentissage des sons d'une certaine manière, pour faire en sorte que ces enfants apprennent leur langue maternelle. Mais ceux qui ont des grosses difficultés dans cette transcription entre graphème et phonème, c'est-à-dire entre ce qu'on écrit et ce qu'on entend, ils ont besoin d'une aide particulière pour bien faire la liaison entre les sons et la graphie. C'est vraiment ce problème-là, au départ, qui accumule des difficultés dans la lecture. Maintenant, je disais la dyspraxie, ça se soigne aussi, d'abord, dans la rééducation en famille, ça c'est sûr, mais chez l'ergothérapeute. Il y a ensuite les problèmes visuels, là aussi ça se rééduque. Mais il y a aussi énormément les jeux de société qui rééduquent le regard visuel. Tous les petits jeux qu'on trouve... pour les jeux d'enfants avec un crayon, par exemple, trois petits cochons sont autour du lac avec une canne à pêche. Il y en a un qui a pêché le poisson, mais leurs lignes se sont emmêlées. Dit quel petit cochon a gagné le poisson. Et donc, avec le doigt, on suit la ligne. Eh bien, ça ne se fait plus. Or, c'est des excellents entraîneurs de regard visuel. Donc, en fait, il faudrait remettre un peu au goût du jour tous les jeux. Tout ce qui existe de façon naturelle avant de se précipiter chez l'orthophoniste parce que notre enfant n'a jamais joué au memory ou n'a jamais joué aux petits chevaux.
Par quoi on explique que toutes ces choses ne se font plus aujourd'hui, toutes ces pratiques, c'est dû à quoi? L'internet, les tablettes,
le modernisme,
l'évolution,
et puis le manque de temps que les parents consacrent aux enfants. Ce n'est plus dans le goût du jour de jouer en famille, de jouer avec son enfant, de lui lire une histoire le soir, parce qu'on est tous pris dans notre individualité, dans nos soucis professionnels, nos soucis de famille, et finalement, je pense qu'on perd l'idée que avoir un enfant, c'est une responsabilité et un engagement. C'est pas une garde d'enfant qu'on fait. C'est qu'en fait, alors la grosse difficulté, c'est que personne ne nous apprend à être parents. Et c'est avec l'expérience qu'on apprend. Les mamans, elles le disent, je ne fais pas pareil avec mon petit dernier qu'avec mon aîné. C'est l'expérience. Maintenant, on peut bénéficier de l'expérience des autres et puis du courant qui peut-être, en effet, nous invite, si les personnes m'entendent, qu'elles aillent acheter les bonnes boîtes de jeux de société, Monopoly, etc., et qu'elles jouent avec leur enfant. Et déjà, l'ambiance sera meilleure pour que l'enfant accepte que le parent fasse alliance dans l'aide aux devoirs. Et puis après, il y a le rythme de vie des familles. L'enfant, quand il rentre de l'école, il faut qu'il se mette aux devoirs tout de suite. C'est comme un sportif de haut niveau. Si le sportif se refroidit après avoir fait 40 km de marathon, il est incapable de recourir un kilomètre de plus. Eh bien, les enfants, c'est ce que je leur explique, ce sont des sportifs de haut niveau, concernant ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Quand ils rentrent de l'école, ils goûtent, et pas n'importe quoi, pas des cochonneries sucrées, mais des fruits, du pain, enfin, des choses nourrissantes et pas sucrées. Ils boivent de l'eau et non pas des sodas. Parce que le sucre énerve les enfants. Il y a plein de choses sur l'hygiène alimentaire à faire. Et ensuite, sur l'hygiène familiale, l'enfant donc fait ses devoirs. S'il est fatigué, une bonne douche, ça le réénergétise. Mais il fait ses devoirs tout de suite. Et c'est après qu'il peut aller jouer. C'est après qu'il peut regarder la télé ou faire des jeux vidéo. Et je pense que les parents sont invités à être rétablis dans leur autorité parentale, c'est-à-dire à contractualiser avec l'enfant. Oui, il y a des choses. Eh bien, mon cher enfant, j'accepte ta frustration, je l'entends, mais c'est comme ça.
Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on fait tout à l'envers.
Alors, c'est pas tout à l'envers, mais on est dans l'excès contraire. On oublie que l'enfant a besoin d'heures de sommeil, on oublie que l'enfant a besoin d'un rythme régulier. C'est pas parce qu'on est samedi soir et qu'il n'y a pas école le lendemain que tu as le droit de te coucher à 2h du matin. C'est pas possible. Le lundi, il ne sera pas en forme pour aller à l'école. Et réapprendre les règles de la vie familiale, réapprendre les règles de la vie sociale, et ça sert pour le futur. Et quand ces règles ne sont pas respectées, on rappelle les règles. Ça devrait s'apprendre naturellement avec l'expérience et puis la communauté. Mais le monde moderne que l'on est fait que on est très individualiste et qu'on fait les choses de notre côté et que on lâche, on démissionne de notre fonction de parent parce que ça devient difficile. La vie est difficile maintenant économiquement.
Vous allez à Koné demain. Vous serez où à Koné?
Alors, c'est pas encore sûr. Pour l'instant, l'UGPE est en train de solidifier les contacts. Je devrais rencontrer tous les professionnels de la pédagogie. Ils essayent de grouper un peu les établissements scolaires, les maisons familiales rurales, pour que je fasse, un peu comme à l'IFOU, une information tout public avec enseignants, parents, ça ce serait bien, et puis peut-être des rééducateurs.
J'allais pour lancer un appel, mais bon, comme tout n'est pas encore bien précisé ou confirmé...
Bah, peut-être contacter l'UGPE, je ne sais pas si vous pouvez donner un numéro de téléphone ou une adresse mail, je ne sais pas.
De toute façon, voilà, pour ceux qui connaissent, appelez l'UGPE, hein, et puis pour en savoir plus, et puis parce que franchement, ça vaut vraiment le déplacement de venir écouter, et puis de prendre les choses comme ça. En tous les cas, ce matin, on a pris le temps comme ça de parler de tout ça. Moi, ça me tenait à cœur de vous recevoir parce que j'ai fait partie de ces enfants qui ont eu énormément de problèmes à l'école.
Alors, je vous coupe. Vous êtes un très bel exemple, vous avez réussi, vous êtes bien dans votre vie, dans votre métier, vous adorez certainement ce que vous faites. Et c'est donc pas parce qu'on a des difficultés à l'école qu'on ne va pas réussir sa vie.
Voilà.
Le plus important, c'est d'être passionné dans la vie, d'être motivé. Et je dis aux parents qui ont des enfants en difficulté, conservez la passion chez votre enfant.
Merci beaucoup. Le dernier mot ? Un dernier mot pour tous les parents, pour tous les professionnels de ce pays.
J'ai l'impression d'avoir semé des petites graines depuis 3 jours. Je vais continuer jusqu'à mon départ le 2 juin au soir. Mais j'espère bien qu'il va y avoir une certaine levée de conscience chez les enseignants, dans les équipes pédagogiques, chez les parents. Et je reste à la disposition des personnes. Si je reviens, j'aimerais bien faire cette fois-ci de la formation. Donc financièrement, c'est pas le même côté que les conférences, mais en même temps, réorganiser des conférences gratuites un peu partout et qu'il y ait plus de monde concerné, que tout le monde se sente concerné. Pas seulement les parents d'enfants dyslexiques, mais les enseignants, les professionnels, et puis les voisins et les amis. Il faut que la dyslexie et tous les troubles 10 soient suffisamment connus pour qu'on arrête de dire que ces enfants sont feignants ou qu'ils le font exprès. Ce sont des enfants très intelligents, simplement, dans leur cerveau, il n'y a pas les mêmes chemins, il n'y a pas les mêmes routes que les autres. Et il faut les aider à automatiser, il faut les aider à leur faire des autoroutes, à leur faire faire des TGV qui vont vite. Et surtout, s'occuper de ces enfants-là, parce que ce sont de futurs jeunes en difficulté. Je ne vais pas employer d'autres termes plus violents. Mais ce sont des futurs jeunes en difficulté parce qu'ils vont se tourner vers la violence pour répondre à leur mal-être.
D'accord. Voilà, c'est pour simplement interpeller tout le pays Kanaky, toute la nation. On est en phase avec notre histoire, comme je le disais encore avant-hier. Et il est important de se pencher sur ce problème et puis de donner du temps, beaucoup de temps à nos enfants, hein, pour que demain on puisse construire Kanaky. Voilà. Odile, merci beaucoup.
Et je vous laisse citer mon site internet.
Je vous en prie.
www.10dys-coaching.com. Mais pour faire plus simple, vous tapez Odile Gaulier et vous me trouvez sur site internet. J'appelle Odile, O-D-I-L-E, Gaulier, G-O-2-L-I-E-T. Et vous pouvez m'écrire, je réponds à tous les mails.
Super. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis un bon séjour en Kanaky. Puis bonne continuation et merci beaucoup d'être passé ce matin. Oleti.